Osons la philosophie. Une émission de Françoise Gernot et Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Nous retrouvons Françoise Gernot. Bonjour Françoise.
Bonjour Sylviane et bonjour à mes auditeurs et auditrices.
Alors, c'est la seconde émission de La négation, qu'est-ce à dire ? Vous nous aviez déjà longuement développé Aristote, ensuite Freud, et vous allez aborder Nietzsche. Je pense qu'il est judicieux pour nos éditeurs de rappeler un peu le fil directeur de votre raisonnement.
Eh bien, je reprends ce que j'avais essayé de développer déjà la semaine dernière, n'est-ce pas ? Au sujet de la négation. Alors, ce que je vous propose, ce que j'étais en cours de vous proposer, c'est un montage. Un montage entre trois textes. Le premier texte, à tout seigneur, tout honneur, est celui d'Aristote. Que nous dit Aristote, fondateur, à partir justement de cette analyse de l'affirmation et de la négation, qui vient en quelque sorte annuler l'affirmation. Qu'est-ce qu'il nous propose, Aristote ? Eh bien, il nous propose de penser la négation d'abord dans une phrase, hein, comme un acte de langage. Alors, je ne veux pas reprendre ce point. Nous l'avons donc beaucoup exploré semaine dernière, disais-je.
Donc, écoutez, la première émission, elle est en
oui,
podcast
bon,
sur
je peux
site.
Simplement rappeler trois choses. C'est-à-dire que la négation apparaît d'abord et d'emblée, dans la pensée philosophique, comme un acte de parole. Hein, on dira speech act aujourd'hui, en ce sens où, bien sûr, il s'agit, nous dit Aristote, du discours déclaratif. Alors, ce discours déclaratif peut prendre deux aspects, celui de la phrase affirmative et celui de la phrase négative. Hein. Donc, ce que affirme l'affirmation affirme que telle chose est ou n'est pas. La négation, évidemment, affirme, nous allons le voir, le contraire de précisément l'affirmation. Tout commence chez Aristote de manière extrêmement simple. L'énonciation, donc, la phrase, et l'énonciation, j'insiste, qui affirme que telle chose est affirmation ou que telle chose n'est pas, entre parenthèses, la négation. Et selon les diverses divisions du temps, c'est-à-dire que affirmation et négation sont des phrases suffisamment souples pour pouvoir se différencier, évoluer l'une par rapport à l'autre au cours du temps. Troisième point, tout simple, l'affirmation est l'énonciation qui attribue une chose à une autre. Hein? J'avais donné l'exemple, le cheval est blanc, et la négation est l'énonciation qui sépare une chose d'une autre chose. Le cheval n'est pas blanc. Alors c'est intéressant aussi de voir comment affirmation et énonciation, je dirais, s'explicitent à partir d'un accord ou d'un désaccord. Je m'arrête là pour Aristote. Simplement, ajoutons, et c'était tout le propos difficile selon une de mes auditrices, c'était tout le propos qui consistait à montrer comment ces définitions ouvraient le champ de la création par Aristote de la logique qui nous préoccupe toujours. Le deuxième point, alors l'articulation peut paraître assez violente, hein. Le deuxième point...
C'était Freud.
Je proposais donc un texte de Freud que je vais reprendre, en tout cas dans sa deuxième partie, qui concerne la négation. Je commence, n'est-ce pas ? Le texte de Freud dont il s'agit est une courte réflexion, relativement courte, à partir d'une expérience psychanalytique, puisque Freud, évidemment, est d'abord un clinicien qui laisse parler son analysant, comme on dit aujourd'hui, pour que celui-ci arrive progressivement à lever les refoulements, c'est-à-dire tous ces interdits de parole qui, en quelque sorte, induisent chez lui à des pathologies psychiques, par exemple à la névrose. Bien. Nous sommes donc dans une situation qui est celle de la scène psychanalytique. Hein? Entre parenthèses, le texte est de 1925 et son titre, nous allons le voir, a en français en tout cas une double valence. Hein? La négation concerne ce qu'en français on appellera la dénégation, mais ce texte concerne aussi une réflexion à partir de la dénégation, une réflexion sur affirmation et négation comme jugement. Jugement de qualité, jugement d'existence. Je rappelle une toute petite chose très simple à partir de la négation. Tout commence, disais-je, avec le travail psychanalytique de celui qui, sur le divan, expose les paroles qui lui viennent de manière incidente, nous dit Freud. Et une parole incidente apparaît de manière étonnante. Elle est la suivante. L'analysant, appelons-le comme ça maintenant, hein, l'analysant donc allègue un rêve et apparaît dans le rêve, idée incidente, donc idée qui surgit un peu inopinément, sa mère. Et voici ce qu'il dit à l'analyste. Vous demandez qui peut être cette personne dans le rêve ? Ma mère, mais ce n'est pas elle. Nous rectifions, le « nous » et le « nous » de l'agent psychanalytique. Hein. Nous rectifions, donc c'est sa mère. Nous prenons pour nous la liberté, lors de l'interprétation, de faire abstraction de la négation et d'extraire le pur contenu de l'idée incidente. C'est comme si le patient avait dit « comme si ». C'est comme si le patient avait dit « certes, c'est bien ma mère dont l'idée m'est venue à propos de cette personne, mais je n'ai aucun plaisir à donner crédit à cette idée incidente ». Que faut-il retenir de cela ? Eh bien, c'est que sous la forme négative, hein, l'analysant expose une préoccupation qui a été refoulée dans l'inconscient et qui concerne sa mère. Le psychanalyste, lui, interprète cette négation, qu'on appelle en français une dénégation, le psychanalyste l'interprète comme une sorte d'aveu paradoxal. Alors ça, c'est très étrange. Mmh. C'est-à-dire que ici, dans cette scène, la négation vaut pour une affirmation renforcée. Autant dire que le balancement entre négation et affirmation est toujours instable.
Oui, mais on pourrait dire aussi que l'analysant l'accepte intellectuellement, mais pas c'est du ça. Tout émotionnellement.
Oui, d'où tout le travail que devra faire le psychanalyste avec son analysant sur la prise en compte, je dirais presque affective, de ce rejet de l'idée selon laquelle il s'agirait, par exemple ici, de sa mère. Maintenant, ce qui me préoccupe, c'est le deuxième point de l'essai. Donc, à partir de cette scène très réduite de l'espace psychanalytique, Freud propose une réflexion philosophique, sur les origines de la phrase négative et de la phrase affirmative. Et nous entrons cette fois-ci dans une question qui est la suivante. Quels sont les fondements psychiques, inconscients, de ces deux actes de parole, Freud dit de ces deux jugements, qui consistent à affirmer ou à nier? Je lis un mot, ceci, la tâche de la fonction intellectuelle, qui est bien reconnue justement dans la part acceptée par l'analysant, la tâche de la fonction intellectuelle de jugement. Et tant d'affirmer ou de nier des contenus de pensée, les remarques précédentes nous ont conduit à l'origine psychologique de cette fonction. Avant même, bien sûr, que la négation et l'affirmation, la négation surtout, deviennent un pur symbole logique. Oui. Je vais simplifier à l'extrême. Donc, Freud nous dit qu'à l'origine donc de la proposition de la phrase négative, il y a dans le psychisme profond quelque chose qui se refuse. C'est-à-dire, il y a des choses, des affects que nous rejetons avec violence. Vous voyez bien que c'est la valeur de négation qui est ici décisive. Et tout se passe comme s'il s'agissait de cracher. Le mot est employé. De cracher ce qui ne nous convient pas et au contraire, d'intérioriser de manière valorisante ce qui nous convient. Donc, Freud fait référence à l'aspect l'aspect, comment dire, plaisir, hein, dispositif de plaisir de notre psychisme. Et auparavant, il avait bien fait référence à Aristote en disant précisément que l'affirmation était un jugement qui acceptait, alors que la négation était un jugement qui séparait. Mais nous voyons ici comment cette séparation est une espèce d'expulsion hors du psychisme de ce qui ne nous convient pas, de ce qui ne correspond pas à notre désir, de ce qui viendrait entamer ou exclure notre jouissance. Hein, nous sommes du côté du sujet de la jouissance. Alors, je passe sur la suite très rapidement. Nous voyons donc avec Freud que l'affirmation, dit-il, est un substitut. Hein, c'est un substitut de l'unification. Quand j'affirme, j'intériorise. Quand j'affirme, j'ajoute quelque chose à moi-même, je l'incorpore, je l'introjecte. Au contraire, la négation extrojette, la négation expulse. Hein. Je lis la suite, la conclusion. L'affirmation, comme substitut de l'unification, appartient à l'éros. Donc l'affirmation est toujours du côté de l'éros, c'est-à-dire d'un objet du désir vers lequel on tend. La négation, successeur de l'expulsion, appartient à la pulsion de destruction. Autrement dit, la pulsion de destruction, c'est bien Thanatos, c'est bien la mort. Hein? Alors, ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment Freud propose, avant même la création des symboles, et du symbole en particulier de la négation, une enquête sur l'origine psychologique, si vous voulez, on va dire psychologique plutôt que psychique, de ces jugements d'acceptation ou de rejet, d'unification ou de dissociation. Nous sommes au plus proche d'Aristote, vous savez.
Oui. Alors sur Radio Alliance Plus, nous avons écouté, comme dans la première émission, Mephisto Vals de Liszt. C'est le choix de Françoise Gernot. Et Françoise, vous allez nous expliquer dans cette dernière partie de cette seconde émission votre troisième élément du montage philosophique après Aristote et Freud, c'est Nietzsche.
Oui, alors dans les deux premiers textes, il s'agissait de la négation, ou plutôt de la phrase négative comme acte de langage. Et aujourd'hui, je voudrais, en dernière instance, vous parler de la négation comme une attitude, ou plutôt comme une forme, je dirais presque de vie, qui nie la vie. En ce sens où ce que Nietzsche appelle le nihilisme caractérise la décadence de la civilisation européenne. Donc il ne s'agit plus, encore une fois, de la négation comme acte de parole, mais de la négation comme une sorte de force historique qui prend en quelque sorte en écharpe, de manière modulée, l'histoire décadente de la civilisation européenne. Et je vous proposais d'introduire cette réflexion par la phrase de Goethe, prononcée justement par Méphistophélès. Je suis l'esprit qui toujours nie. Alors, il s'agit toujours d'un esprit qui nie, mais il s'agit de la négation en acte, mais dans l'histoire. Et dans l'histoire, encore une fois, de la civilisation européenne. Nous, Européens, voilà quel est le sujet de l'œuvre de Nietzsche. Alors, de quelle œuvre s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'une œuvre... une des dernières de Nietzsche, je trouve une des plus intéressantes parce qu'elle se présente pour nous sous la forme de dissertation, la généalogie de la morale. Ça s'appelle « Pour une généalogie de la morale » 1887, Sils Maria. Nietzsche, je rappelle, dans ses années, esquisse donc le projet d'une histoire du nihilisme européen. Alors, décadence, nihilisme. Nietzsche a remplacé le terme de décadence par celui de nihilisme qui est beaucoup plus précis. Alors, à quel titre dénonce-t-il de manière parfois très véhémente et très désagréable pour nous lecteurs, bon, il y a des moments presque insupportables, de cette rage de Nietzsche contre la civilisation européenne? De quoi nous parle-t-il? Eh bien, il nous parle du nihilisme européen en regard d'un concept qu'il est en train de construire à cette époque, qui est celui de volonté de puissance. Alors, vous savez, vous soupçonnez que ce mot de volonté de puissance est parfaitement piégé. Que signifie-t-il? Alors, que signifie-t-il pour Nietzsche? Quelque chose comme, alors, quelque chose comme, mais après tout c'est une citation, quelque chose comme un instinct de liberté qui, en quelque sorte, ne connaît aucune espèce de limite. Il y a une certaine violence inhérente à cette volonté de puissance. Mais cette volonté de puissance, je le dis tout de suite, ne doit pas être interprétée politiquement comme, par exemple, une justification a priori, la question s'est posée, bien sûr, de l'atroce. Comment dire, l'atroce histoire de l'hitlérisme. Entre parenthèses, sa sœur a essayé de falsifier les derniers fragments qui devaient constituer justement un livre, La volonté de puissance. Elle a essayé de les falsifier, elle a réussi à les falsifier pour en faire un manifeste nazi. Et les lecteurs actuels sont obligés de défaire, de déconstruire en quelque sorte cette falsification pour retrouver le projet de Nietzsche.
Oui, parce que Nietzsche, il y avait déjà beaucoup d'attentats contre les tsars, enfin c'était,
oui, alors,
c'était
le,
déjà
oui,
très,
oui, bien sûr,
très politique.
Oui, alors nihilisme, le nihilisme, bien sûr, il existe d'abord dans une tradition littéraire russe que Nietzsche n'ignore pas. Mais ce qu'il définit comme nihilisme, et en ce sens où c'est véritablement l'époque fondamentale de la culture européenne, ce qu'il définit comme nihilisme, c'est l'ascétisme. Le sous-titre de ce livre, c'est le suivant. Que signifient les idéaux ascétiques? Dois-je expliquer ce que c'est que l'ascèse? Bon, l'ascèse, c'est une pratique.
Je suis un peu perdue, là.
L'ascèse, c'est une pratique, c'est un exercice qui consiste précisément à nier, à soumettre toutes les forces vitales, la volonté de puissance comme instinct de liberté, entre guillemets, comme l'a défini Nietzsche, soumettre cela pour gagner quoi? On ne sait. Mais simplement, cette pratique ascétique qui caractérise en particulier la religion, qui est, comment dire, lancée comme projet par cette figure contre laquelle s'insurge Nietzsche, la figure du prêtre. Cette injonction à l'ascèse consiste justement à réprimer de manière violente la pulsion. On n'est pas très loin de certaines analyses de Freud sur la civilisation, sur la mélancolie ou les désastres que la civilisation impose justement dans la mesure où elle réprime le pulsionnel. Donc, le nihilisme s'allie justement ou se présente comme cette injonction à nier, à refouler, j'emploie le mot freudien, à réduire la part en nous de pulsionnel. À quoi cela correspond-il? Est-ce une décision individuelle? Est-ce simplement aussi une injonction, comme je disais à l'instant, liée à la caste des prêtres? Pas seulement. C'est véritablement un mouvement historique, presque un mouvement historial, qui consacre la diminution, l'extinction, la déperdition de force de la volonté de puissance. Voilà ce qu'est le nihilisme. Peut-être vais-je vous citer quelques éléments. Alors simplement, nihilisme, volonté de puissance, ces deux termes, assez bizarrement, ne sont pas véritablement thématiques dans cette troisième dissertation de la généalogie de la morale. Hein. Ce sont des index pour un travail futur que Nietzsche n'a pas pu construire parce que précisément, quelques années après, il s'effondre, nous le savons, dans la folie. Donc nous avons avec Nietzsche et cette dénonciation de l'ascétisme. Alors, excusez-moi, je n'ai pas suffisamment défini. L'ascétisme, c'est donc le renoncement, le jeûne, le renoncement à la vie sexuelle, enfin, toutes ces pratiques de macération, si vous voulez, du corps qui s'imposent, je dirais, dans l'horizon des religions, mais pas seulement. Parce que même si nous ne sommes plus religieux, nous sommes, bien sûr, toujours déterminés par cette époque. Par cette époque de la civilisation qui, encore une fois, renie toute la vitalité, encore une fois, ce que Nietzsche appelle l'instinct de liberté.
Mais moi, ce à quoi je pense, c'est à tous ces prêtres, et même les très haut placés, cardinaux, évêques, etc., qui ne répondent pas à cette ascèse, que l'on représente toujours vivant
oui,
de luxe.
Mais justement, il y a une perversion de l'ascèse. Il y a une perversion de l'ascétisme. Non pas que les aberrations sexuelles de certains prélats et autres viennent naturellement. Ce sont des forces réactives, justement, à l'imposition de l'ascèse. Mmh. C'est réactionnel. Hein? Alors, je ne citerai pas de nom. Il y en a un qui est très célèbre à l'heure actuelle dans la presse française. Je ne citerai pas de nom. Mais c'est réactionnel.
Oui. Hein?
Je voudrais surtout insister sur cela aussi, c'est que pour Nietzsche, le nihilisme, qui est donc une attitude, je dirais presque impliquée par ce mouvement civilisationnel dont nous ne savons pas très bien quelle est l'origine, hein, le nihilisme n'est pas simplement le renoncement à la volonté de puissance, hein, à cette énergie pulsionnelle qui devrait tout de même pouvoir, et c'est le lot entre guillemets des plus fabuleux des hommes qui devrait nous prendre en compte. Il n'y a pas pour Nietzsche une extension absolue de la volonté de puissance. Alors chez les prêtres, il y a une certaine volonté de puissance qui se révèle justement dans la mesure où ils imposent d'une part l'ascétisme aux autres et dans la mesure aussi où prêchant la charité, il donne tout de même un petit surplus de jouissance à ceux qui se montrent charitables. Là, il y a une ruse. Il y a une ruse de la prêtrise qui est tout à fait intéressante à développer. Je n'ai pas le temps de le faire. Bien.
Et
conclusion de tout ça.
Cette aversion contre les prêtres chez Nietzsche?
Ah, parce qu'ils sont la figure même. Ils sont la figure même du nihilisme.
D'accord.
N'oubliez pas que le père de Nietzsche est pasteur. C'est tout dire. Je reviens sur cette dernière idée. La volonté de puissance ne s'exténue jamais tout à fait. Et Nietzsche conclut ainsi les phrases de conclusion. On ne peut absolument pas se cacher ce qu'exprime précisément toute cette volonté qui a reçu sa direction de l'idéal ascétique. Cette haine de l'humain, plus encore, de l'animalité, plus encore de la matérialité, cette répulsion devant les sens, devant la raison même, cette peur du bonheur et de la beauté, cette exigence d'échapper à toute apparence, à tout changement, à tout devenir, à la mort, au désir, à l'exigence même, tout cela signifie, osons le comprendre, une volonté de néant. Une répugnance à la vie, une révolte contre les conditions les plus fondamentales de la vie, mais cela reste une volonté. Et pour répéter en conclusion ce que je disais en commençant, l'homme préfère encore vouloir le néant plutôt que de ne pas vouloir du tout. Donc le nihilisme, c'est la volonté du néant. Et je me suis posé la question aujourd'hui, est-ce que ce nihilisme défini par Nietzsche, est-ce que ce nihilisme définit encore notre civilisation. Et j'ai pensé que le nihilisme actuel, c'était la volonté du chaos.
Pour vous, c'est différent du néant.
Je pense qu'il y a une conversion du nihilisme, volonté du néant, volonté du chaos, ce qui ne revient pas tout à fait au même, mais presque.
Eh bien, en conclusion, Françoise ?
Eh bien, en conclusion, en suspens de conclusion, je voudrais donc vous lire maintenant un aphorisme de Kafka de 1920. Le voici. La force de nier, cette manifestation la plus naturelle de l'organisme guerrier de l'homme, qui ne cesse de se transformer, de se renouveler, dépérissant, revivissant, nous l'avons toujours, mais pas le courage, alors que la vie est pourtant bien négation. C'est-à-dire négation, affirmation. Nous voyons ici que Kafka porte au titre de la négation tout ce que Nietzsche dit de l'affirmation. Et il y a une conversion qui est tout à fait intéressante, puisque nous voyons encore une fois comment le négatif peut se révéler affirmatif. Je vous remercie.